Donc voilà, nous voilà réunis pour cette dernière session de la journée, qui va être, je pense, pas une des moindres. Je vais pas m'étendre très longtemps là pour vous présenter donc cette table ronde où on trouvait intéressant, en dehors peut-être des murs du musée, de revenir sur l'exposition. Je vous rappelle juste les biographies des protagonistes de cette table ronde. Donc Michel Osier, donc je vais commencer par André Sen, qui est donc la curatrice de l'exposition Médusa au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ses projets et ses écrits s'intéressent aux pratiques artistiques à la périphérie des beaux-arts officiels, notamment à travers le son et la vidéo, la copie et la reproduction, l'artisanat et le décoratif, le pornographique et le proto-queer. Pendant ses expositions, Playback Clip Vidéo d'artistes en 2007, Start Event en 2010, Cavalrama en 2014, Décorum, Tapis et Tapisserie en 2013 et 2014. Et donc maintenant Médusa, Bijoux et Tabous, qui sera ouverte jusqu'au 5 novembre. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous avez encore un petit peu de temps. Et pour donc construire cette exposition, Anne s'est entourée de Michel Osier, qui est historienne du bijou, diplômée commissaire-priseur et gémologue. Elle enseigne et collabore avec Christie's pour la vente aux enchères de bijoux d'avant-garde. Michel est aussi conseillère scientifique, donc commissaire d'exposition. Elle est parallèlement auteure d'un film documentaire sur la place Vendôme, de livres et de nombreux articles pour les musées ou la presse. Et enfin, Benjamin Lignel, historien d'art et designer de formation. Il est cofondateur de la Garantie, Association pour le bijou, une association, donc, comme je vous ai dit, qui est dédiée à l'étude et la promotion du bijou ici en France. Il commence à écrire sur l'artisanat contemporain en 2006 et devient membre de Think Tank, European Initiative for Applied Art, en 2009. Il est rédacteur en chef du magazine Art Reform entre 2013 et 2016 et publiera à ce titre trois ouvrages sur le bijou contemporain. Il a contribué en tant que financier scientifique à l'exposition Médusa, donc il travaille actuellement avec Namita Wiggers sur un projet de recherche consacré aux bijoux et aux questions de genre. Et pour les interroger, donc, en tout cas, pour les mettre à la question, comme on a entendu hier. Il y a Aurélie Chatenay-Caliste, que nous sommes contents d'accueillir cet après-midi. Merci d'être avec nous. Agrégée d'histoire, docteur en histoire moderne et maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Lorraine. Les recherches d'Aurélie portent sur la consommation des élites curiales à l'époque moderne et tout particulièrement sur l'histoire du corps, du paraître et de la culture des apparences des femmes de l'aristocratie au XVIIIe siècle. Elle a notamment publié une consommation aristocratique fin de siècle, Marie Fortunée d'Est, princesse de Conti, 1731-1803. Aux presses universitaires de Limoges en 2013. Namita Gupta-Wiggers, qui est la directrice fondatrice de The New Master of Art in Craft Studies à la Warman Wilson College. Namita est directeur et cofondateur du forum Critical Craft. Donc c'est une communauté online qui inclut un groupe Facebook, des podcasts, un blog et une session annuelle au College Art Association. Est-ce que c'est une location géographique? Namita a été directeur et curatrice du musée de craft contemporain à Portland entre 2004 et 2014. Et les projets courants incluent comme éditrice, l'inclut comme éditrice. Alors ça, je du coup, Benjamin, tu me dis.
Éditrice d'un companion sur la scène contemporaine avec Wiley Blackwell Publishers. Et elle fait c'est incroyable, elle fait un travail de recherche avec Benjamin Lignel sur le bison et le zoo.
Et donc, Frédéric F. Martin, que je ne représente pas puisqu'on l'a entendu déjà cet après-midi. Voilà, donc je passe la parole à nos invités.
Très bien, merci beaucoup. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'accueillir ici, ce qui me change un petit peu de mon monde habituel, d'historien moderniste, universitaire, et je suis vraiment très très contente de participer justement à cette conversation pour croiser justement les regards sur cet ornement, sur les bijoux, et j'ai vraiment été, j'ai visité bien sûr l'exposition et très intéressée par justement la multiplicité des regards, la variété des bijoux qui ont pu être présentés aussi bien dans leur forme, les matériaux, mais aussi évidemment pour l'historienne que je suis, les périodes et les espaces envisagés. Et effectivement, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est aussi la dimension un peu pédagogique avec des panneaux vraiment qui précisaient, qui expliquaient cela. Alors, je présente peut-être quelques questions, c'est ça que... Voilà, d'accord, non, je ne savais pas trop voilà, où aller. Donc, alors, évidemment, moi je travaille sur le paraître dans un milieu particulier qui est paraître à la cour, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est justement ces questions d'identité, puisque quand on est à la cour, être, c'est paraître, et notamment en lien, donc la question d'identité avec les identités bien genré, comme on en parlait tout à l'heure, et justement comment finalement les bijoux aussi mettent au jour des identités genrées, la construction d'identités genrées au cours des périodes, et comment les bijoux peuvent-ils jouer aussi avec ces identités-là. Voilà, donc c'est la première question assez large.
Je ne vais pas vous faire une réponse là, par rapport à l'exposition, c'est plus une réponse historique. En réalité, et je vais vous répondre à la cour, la question de genre, vraiment dans l'histoire à la cour, elle a commencé à se poser, peut-être que je peux me tromper, mais à la Renaissance, avec Henri III, et ce qui est vraiment intéressant, donc avec ces millions, c'est une terminologie qu'il faut que vous sachiez qui n'était pas péjorative avant, puisque c'était les serviteurs, les amis du roi, et là ça va devenir absolument péjoratif, puisque finalement il y a une homosexualité qui est dénoncée par ce terme. Bon. Alors, moi, je vais revenir aux bijoux, puisque c'est quand même mon domaine. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que les bijoux qui vont porter, qui vont dire qu'il y a une anormalité, je vais le dire comme ça pour qu'on atteigne une différence, et qui sont donc des bijoux qui normalement sont pour des femmes, ça va être les boucles d'oreilles, et pas les boucles d'oreilles, les pendants d'oreilles. C'est vraiment là. C'est pas du tout la même chose. Or, il s'avère que la référence n'a rien à voir avec une référence genrée, puisque en l'espèce ils sont allés prendre un bijou qui venait de l'Orient. Là, les Arabes sont très proches et donc on commerce avec eux, et au contraire, on sait très bien que Proche-Orient et Orient compris, les hommes d'un certain niveau social sont parés, et plus ils sont riches, plus ça se verra notamment aux boucles d'oreilles, au poids des boucles d'oreilles, hein. Donc effectivement là ils prennent un référent qui est un référent de valorisation et de classe sociale, et qui va être complètement transformé en genre. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'un même bijou selon le contexte n'est pas lu de la même façon. Bon, en réalité, C'est un ensemble. Mais juste pour le bijou, cette anecdote de la boucle d'oreille. Et moi, souvent, comme on les voit dans les portraits avec un anneau, une boucle d'oreille, on dit, mais c'est les deux oreilles, c'est une oreille. Mais ce qui est intéressant, c'est le pendant. C'est pas de savoir s'ils en ont sur une ou sur deux. Entre nous, ils peuvent en avoir une, ils peuvent en avoir d'ailleurs deux. Et des deux côtés, ils, enfin, eux-mêmes s'amusent avec leurs oreilles, si on peut se permettre ce jeu de mots. Voilà, c'est vraiment la lecture qui, en effet, peut-être, au début, c'était... Bon, il n'y a pas de texte dessus, mais il y a vraiment une proximité, surtout de la Cour de France, puisqu'à un moment, le fils du roi, et alors je suis en train de chercher lequel, mais voilà, j'ai oublié, mais qu'importe, mais le fils du roi en est la Renaissance, est tout prêt, va aller vivre et va être prince dans une cour qui est vraiment en frontière avec le monde arabe. Donc lui, il a vraiment un contact. Et quand très vite il devient, avant d'être Henri III, c'est quoi le nom du prince? Enfin bon, quand il va devenir, vraiment roi, eh bien il continue à porter les bijoux qu'il portait à côté. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'un type de bijou dans un lieu est genré et dans un autre ne l'est pas. Voilà, ça c'était déjà une chose. Et puis alors, j'ai pas mal entendu parler de la montre. Alors ça c'est intéressant aussi. Et la montre est toujours une question aujourd'hui genrée. Alors j'ai entendu que la montre était liée à la femme. Alors, la montre, elle n'est pas spécialement... Enfin, à partir du 19e siècle, bracelet. Alors, au début, elle ne l'est pas du tout, et c'est même majoritairement des hommes, mais ce n'est pas tant des hommes et des femmes, c'est parce que, à partir du moment où techniquement on a pu miniaturiser, on l'a porté à corps parce que c'était accessible, donc ça va être l'histoire de la châtelaine. Et puis, ensuite, de la châtelaine, on va la porter en gousset, ça c'est de toute façon plutôt une priorité masculine, et au bracelet. Alors comment ça se fait qu'on dise que la femme le porte en premier en bracelet? Eh bien là, c'est là une histoire de la haute joaillerie française. Il faut que vous sachiez que la Napoléon, pour Marie-Louise, lui fait faire des parures. On l'a vraiment acheté, notre Marie-Louise. On lui a offert beaucoup de parures, et notamment des parures, une parure rubis et diamant, qui a été faite par Mito, ex-Chaumet. Et pour acheter, alors elle a eu comme cadeau dans sa corbeille de mariage beaucoup de parures, dont une qui devait être exceptionnelle, on voit apparaître la montre. C'est-à-dire tout d'un coup, l'objet est mis dans la haute joaillerie. Mais là, vous êtes dans un domaine tellement particulier, il y a un cas d'espèce assez exceptionnel, que là, c'est vraiment de la valorisation pour une... On a vendu, on l'achetait en lui remettant quelque chose d'exceptionnel. Hein. Mais n'empêche que qui utilisait, c'était l'homme.
Voilà. Pour quand même introduire un peu la question par rapport à l'exposition, c'était vraiment important de regarder le bijou de manière différente. Et donc on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait jamais eu d'exposition sur le bijou dans un musée d'art moderne et contemporain. Et en fait, on est parti vraiment de quatre clichés, quatre idées préconçues contre le bijou, pour mieux les déconstruire, pour rappeler en fait qu'il n'y a pas qu'un bijou, ça serait déjà, c'est un premier point, et surtout que c'est pas qu'un bijou, c'est pas nécessairement l'antithèse d'une œuvre d'art, et qu'en fait, à travers du bijou, on peut vraiment se poser des questions sur notre rapport à l'objet, à l'identité, à la consommation, etc. Mais que voilà, que en fait le bijou est un peu enfermé dans des cases et qu'il était nécessaire de les déconstruire. Et donc l'exposition en fait s'ouvre sur la question de l'identité. Et à chaque fois, c'est un peu l'avocat du diable. Et on part d'une idée vraiment qui colle au bijou, qui nous empêche aussi un peu qui, comme tous les clichés, repose sur des faits et des réalités. Il ne s'agit pas de dire que le bijou n'est pas du tout féminin, mais il s'agit de montrer qu'il l'est, mais qu'il peut être autre chose et qu'il a été autre chose. Donc c'est c'est vraiment ce, voilà, repenser le bijou, et c'était important de commencer avec la question de l'identité et de la convention. Puisque c'est effectivement un marqueur de convention qui distingue en partie les hommes des femmes, mais encore, si on remonte dans l'histoire, c'est moins simple que ça n'a l'air, mais ça peut être aussi un outil d'insoumission. Donc c'est vraiment la première partie de l'exposition, c'est une s'attache à ça.
C'est juste rajouter, je pense que l'exposition est faussement ahistorique, dans le sens où effectivement on a un découpage qui est thématique et qui est enfin, identité, enfin, comme l'a dit Anne. Mais quand on s'est posé la question de cet a priori négatif contre le bijou et qui serait un bijou trop féminin, on a dû repartir sur l'histoire de cette polarisation des genres. Et on a eu des discussions infinies qui ont été encore enrichies hier et aujourd'hui par d'autres histoires qui disent, attendez, la simplification masculin-féminin, c'est... Cette chose-là, elle fonctionne à un certain moment, à un certain endroit, et encore. Mais l'effet pédagogique de l'exposition est le fait qu'il y a aujourd'hui, on hérite encore de cette cristallisation sur l'association entre femmes et bijoux. On est parti de ça. C'est un raccourci.
Il faut partir des raccourcis pour justement mettre des chemins de travers, etc. Mais effectivement, enfin, juste pour rebondir sur la cour ou autre, mais justement, enfin, ces identités genrées, elles se construisent différemment aussi selon les périodes et le temps. Et la Renaissance, c'est une période de redéfinition aussi de la masculinité. On passe des guerriers aux armes, aux courtisans à la cour. Et donc, le paraître du courtisan n'est plus le même que le paraître du chevalier, pour faire court. Justement, et donc ça se passe aussi par des vêtements, des bijoux qui vont être différents. Donc là aussi, voilà, des constructions qui se modifient au cours de la période. Et rebondir, mais après je laisse la. Enfin voilà, c'est pas forcément des questions à répondre tout de suite, mais c'est juste deux petites choses. Enfin, ça interroge aussi le rapport entre bijoux et pouvoir, à l'instar, rapport de pouvoir, et bijoux et rapport au temps aussi, parce que la montre aussi, par exemple. Mais c'est intéressant parce que, alors, au XVIIIe siècle, on a justement, on passe d'un temps qui est un temps collectif, le temps de l'église, l'église qui sonne les heures, etc., à un temps qui devient de plus en plus individualisé, justement parce qu'on a des montres ou une mesure du temps qui est plus individualisée. Et justement, c'est intéressant de voir qui est maître de son temps, qui a le temps. C'était juste une piste. Et puis, alors peut-être plus largement, le bijou face au temps qui passe, le bijou et la mort, des thèmes aussi, alors que ce soit la tête de mort ou le rappel d'un être aimé, c'est peut-être aussi des pistes, en fait, en tous les cas, qui nous semblent aussi quelque chose d'intéressant. Et le rapport au temps, ça peut être aussi le côté éphémère d'un bijou dans les matériaux. Enfin, voilà, c'est des petites pistes, voilà. Enfin, mais enfin, peut-être qu'on peut rebondir avec mes camarades.
This is going to be one of those Monty Python moments where it's now for something completely different, so I apologize. I'm really interested in the context and of the exhibition taking place in the Museum of Modern Art in Paris, and I'm going to read the question. I don't usually do that, but I'm going to read the question so it'll slow me down and slow my English down, because otherwise my Jersey comes out. So this exhibition comes at a time of two particularly popular kinds of exhibitions in the United States and Europe. So we're seeing a lot of monographs that focus on a single fashion designer. We're seeing exhibitions that are curated within modern and contemporary institutions that address media and practices that are linked to the applied arts. Specifically, we've been seeing a lot of ceramics and textile exhibitions in the U.S. and England and so forth. I'm thinking specifically of the wildly popular Alexander McQueen exhibition at the Met, and Ceramiques, which was here in Paris last year, Dirt on Delight, that traveled around the United States as a ceramics exhibition. And Fiber Art Now, that was at the ICA. But this exhibition that you all have put together, this one is the first exhibition at a major sized museum, not like a small artist space, not a small regional museum, not a university museum, but a major institution that has prominence, that has put together a show on jewelry. So I'm wondering, why now? What changed that made this possible? And how it came together? And in the coming together, I wonder if you might also share with us a bit of who was brought in to be at the table to have the conversation, and how you worked with the audiences that come regularly to your museum, to the Museum of Modern Art, and audiences that are coming perhaps from other subcultures like the jewelry community, and how you negotiated that. And it's kind of a leading question because the Dirt on Delight and Fiber Art Now exhibitions were not received as well by different subgroups in the United States. Textile people felt overlooked. But this is an expansive 430-loan exhibition. So, and it's the first one, and it's major. So I wonder, I know that's a complicated kind of question, but it's really about why, who, and how. That's all.
Should we, because there was another question on time, so should I?
As you want.
Okay, later. Perfect, yeah.
Just,
Oui. Non, il ne faut pas qu'on les oublie. So I think this exhibition is really linked to another exhibition that I did 3 years ago that was called Decorum, and it was based and focusing on textile carpets. It was actually subtitled Carpets and Tapestries by Artists, and it was like the title was actually not exactly what it was, because it was also confronting and associating anonymous and very ancient tapestries with very contemporary ones. So anonymous ones with signed ones. So it was a bit of the model that also we followed in the or the structure or the I don't know. This structure we followed in for Medusa as well. But surely the idea of a jewelry exhibition came in my mind during the construction of this textile exhibition. And the reason why is that actually some artists who did textile works over the 20th century did also jewelry. So that was a sort of easy opening of my mind, but also so I'm thinking about Annie Albers, for instance, but also Sonia Delaunay, and but there is also, and I'm always inspired by very contemporary artists, and within my crowd, I would say, or I don't know, the artists I follow the most, I kind of distinguished very strong interest in craft practices, but without necessarily, they were never or rarely trained as weavers or as jewelers, but they included those practices in their works. And I often wondered, why now? And so I called, or I attempt to call that practice like neo-craft, for instance, or post-craft, or there is this possibilities of neo and post. And I thought that maybe there was a will of maybe a reaction be like against a sort of dematerialization of the relations, or I don't know, something like speeding up that was criticized in a sub text. And so I wanted to follow what I started with Decorum with this Medusa exhibition. But it was, in both cases, I really didn't want to only focus on artist textile or artist jewelry, and to put it in a broader context and discussion. And this is also why I invited Benjamin and Michel to join me and to broaden really the our and when I say our, it's like my definition of those two mediums. Then it's also interesting that these two exhibitions took place on the contemporary art floor of the museum. And sometimes I hear my colleagues saying, but you're not doing any more like contemporary art exhibitions, and it's not like you always have dead artists or like not only from the 20th century but also from way back. And for me, it's not really a question, because I still think I'm doing like contemporary art exhibition with different kinds of objects. And I think it's the gaze that's maybe contemporary. And so for me, it would be totally uninteresting to work on the other level of the museum. And I think I would be also less free to think the way I think. And the expectations would be different. So the structure would be definitely different. And what I like is that the floor of contemporary exhibitions is, of course, less popular in many ways in terms of audience, because a lot of our public is not so into contemporary art. So I'm also trying to cross over different kind of audiences that usually don't really meet.
Just to say a few words about constituencies. Different people came to the opening, and different people said, you know, this is great because you're taking us out of our box. And we would have imagined that this could have been a coming from the contemporary jewelry community, but in fact it came from the Place Vendôme, which was a huge surprise. And so there was something about the dialogue that was being created, and we may speak later about whether the fact that this museum is in Paris is giving us a particularly good purchase on diversity. But certainly it seemed that contemporary jewelers on the one hand and high jewelers on the other hand were happy to meet, and to meet with other types, other disciplines and other types of production. And so we need to ask the people in the crowd who are part of the community whether they're happy about being in that exhibition. I don't think that we can answer that for them. So maybe they can speak to that later on.
More than only contemporary jewelry milieu and contemporary art milieu, I would say that there was other or high-end jewelry milieu. There was also curators from the Louvre, because we were really lucky and got almost everything we wanted, I have to say, which was not obvious in the first place. And we were really surprised to hear, like, for instance, the couriers who came for the installation, and we were a bit scared that they would maybe dislike the association we made in some of the vitrines, and we thought that maybe they would not understand, or maybe just wouldn't agree, or maybe like forbid us to make those kinds of dialogues. And as far as we know, as far as they've expressed themselves, I don't think that any of them, except maybe one example, asked us to remove or displace, you know, the loans from a vitrine. And I think I can say who.
Is that person
like something that fell from the wall? And who couldn't really express it? No, it's actually. And it relates to Brice Delsperger. It's not because of Brice Delsperger, but it's in the vitrine that deals with copy and reproduction. So it's in the value section. And Chanel, we wanted to have, and in that vitrine we have different kinds of objects dealing with reproduction and fake and copy and multiples. And we had fake jewelry, like really like lent from the customs office. We had the copy of the Regent, la copie du Régent, coming from the Louvre. We had a Brice reproduction of this Bulgari, which is an accessory for his one of his films. We had Chanel cross, a Byzantine cross that belonged to Coco Chanel, and almost exact copy that Gossens made for Chanel. And what else do we have?
The Hermes
Oh yeah, exactly. And an Histoire d'Or black diamonds, that kind of quoted or got inspired by Grisel Gounod, black diamonds. And so when Chanel came, I think the really the thing that they couldn't stand or you know go over was the fake customs pieces. So we had an argument. It was kind of late in the process. We had to remove those objects, which was very stressful because I wanted to convince them, but we didn't manage. So we put those seized objects in on the wall, which was kind of a semi.
No, the thing is, it's quite interesting because it's really a marketing and not an historical way of thinking, because Gabrielle Chanel, she was wearing fake and real at the same time.
So they,
but they don't want to communicate in this, and they really want to show she was working, she on diamonds, she in 32, she created big exhibitions. They never said she was asked to do it, she was given the diamond, never said, voilà, that's something. And that's really a political way of seeing it. I have to say, this exhibition is soft in a certain way because there's nothing violent with the body. I remember when I made the film with on Place Vendôme, which had to be really soft. There's a part, and Emmanuel Lacoste is here, so he's in the film, and he's speaking about making, I should say, growing a stone from the body, which is, you have to sculpt, I should say, the bones and open the, well, and he's explaining it, and we are showing what he's trying to do before, which means joaillerie is to put a stone without less metal, so there's no more metal, it's just the body and the stone. But that was really too hard, and it doesn't know him, but when we have the first presentation for the Place Vendôme, I heard some bad things, you know. And at the exhibition I expected a little bit something the same way, but that's really interesting. It was more for them curious things, interesting things, but we were not in the body. And that's really a link we have to know for this colloque as well. If you don't touch really at the body, it's more mental, it can be intelligent, it can be funny, but you don't touch the body. That's what's really interesting for me. But they accepted it, and it was really great, but that's a limit.
Tant de choses à dire, parce que vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était une exposition vraiment passionnante. J'ai pas fini de prendre des notes sur toutes les photos que j'ai prises. Passionnant à la fois dans la sélection, dans l'organisation, dans la scénographie qui est, je trouve, aussi extrêmement intéressante. Après,
Évidemment, on est obligé de choisir parmi toutes ces questions qui viennent à l'esprit. J'aurais au moins deux questions qui sont assez simples, alors, qui sont liées. C'est revenir sur cette question de bijoux et ornements. Parce qu'au départ, on a donc bijoux et tabous. Et puis, quand on commence l'exposition, très tôt, on voit que vous avez donné à bijoux une extension assez importante. Suffisamment importante pour avoir, je vais prendre un exemple qui est un petit peu limite, bien sûr, mais pour avoir notamment une ceinture de chasteté, dont je doute qu'il s'agisse proprement d'un bijou, à moins de... Enfin, ou alors il faudrait savoir comment les qualifier comme bijou. Enfin, voilà le problème que ça suppose. Donc, deux choses qui sont liées entre elles, c'est comment est-ce que vous avez sélectionné justement ces éléments qui sont relativement périphériques, la ceinture de chasteté, le cône d'Aventon, je pense qu'il pareil est vraiment un objet un peu particulier. Il y a un autre objet qui est...
La cravate.
La cravate, oui, où je pensais à un autre objet qui est intéressant, puisqu'il fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le monument, c'est les œufs Fabergé. Il y en a, je ne crois pas qu'ils apparaissent, mais ce sont des objets que je trouve très intéressants, parce qu'a priori, ils ne sont pas portables, ils sont souvent quand même rangés dans les éléments de bijoux, et c'est... bon. Et donc, comment vous avez... Pas de bijoux non. Alors, comment... à cause du corps. Non, mais sur certains points, je suis d'accord avec toi. Sur certains points.
Il y a une tabatière.
Oui, mais...
La tabatière a été choisie...
Il y a des écrins à bijoux.
Non, non, mais la tabatière a été choisie exclusivement parce qu'elle vous représentait un homme extrêmement paré. Donc c'était l'introduction pour qu'on comprenne. Il y a quand même des outils pédagogiques. C'est effectivement le domaine, l'objet bijouté, okay, tout à fait. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un œuf Fabergé. Mais comme on ne va quand même pas dans cette logique, on l'a choisi parce que dedans, vous avez vraiment un homme paré. Mmh. Et donc cet homme paré a lancé la suite. Mmh. Voilà. On peut défendre chaque objet.
Oui. Non, mais c'est surtout ce que ça engage sur les conceptions. Oui. Et du coup, ça va avec, mais du coup, est-ce qu'il y a des objets justement que vous n'avez pas réussi à avoir, que vous auriez bien aimé avoir?
Je vais répondre sur la première partie uniquement. Je pense qu'il y a pas mal de dérapages sémantiques ou des dérapages de catégories qu'on a accepté, qu'on a voulu, qu'on a contrôlé pour certains. Il y aurait des moyens de défense sur le cône d'Aventon et une autre expression à le pouvoir qui utilise des techniques de fabrication qui sont similaires à celles de la bijouterie. Il est dans un statut de démonstration qui est similaire à la couronne et donc il y a effectivement ce rapport au corps que rappelle Michel souvent. Et effectivement, on a pris des libertés, dont on espère qu'elles créent des... cette friction, cette tension entre l'objet et celui qui est presque le même, mais pas complètement le même. Il y a des objets dans l'exposition qui ne sont pas des bijoux. Mais c'est une exposition sur le bijou. Et ils parlent de ça, ils font partie de cette conversation-là. Et je pense que... Est-ce que enfin, peut-être la question, c'est est-ce que ces objets auraient mérité qu'on dise dans celui-là, bon, on ne considère pas que c'est un bijou. On vous dit où est-ce qu'il fallait laisser cette zone de vague un peu, tu vois, entre les deux pour que ça fonctionne effectivement. Ah oui, non, effectivement, on peut rapprocher ça, on peut l'accueillir dans la conversation sur ce que c'est que créer des identités, créer du pouvoir, créer de la valeur et ces trucs-là.
Et on peut avoir des différents entre nous. Parce qu'on n'a pas la même...
Je pense pas que vous ayez défini au départ.
Non, puis on n'a pas la même frontière en fonction de notre culture.
Et par exemple, la ceinture de chasteté, elle est intéressante au regard de la chastity ring, enfin la virginity ring, qu'on lit mieux, je pense, au regard de cette ceinture.
Jean-Claude Bologne, il y avait un truc sur l'objet fermé.
Alors, Jean-Claude Bologne, qui est intervenu hier dans le séminaire au Musée d'Art Moderne, nous a rappelé que, selon lui, en fait, il y a toute une très très longue généalogie d'objets, de bijoux fermés, qui sont des bijoux qui encerclent et qui soumettent, en fait. Et donc, il y avait un lien, enfin, en plus historique, enfin, fort entre l'alliance et la ceinture de chasteté qu'on a, encore une fois, assumé. Le seul problème, c'est qu'elle est à l'envers. Dans ça...
À l'envers.
Personne n'avait remarqué. Si la ceinture de chasteté, mais c'est vraiment une petite aparté. Il y a dans des recherches qui ont été faites sur les ceintures de chasteté, mais j'ai pas vérifié les sources, il est dit que les rois de France, qui avaient donc certains moyens, faisaient faire pour leurs chers et tendres. Et on est à l'époque de la Renaissance, donc des ceintures, on en a dans les tableaux, hein, ça, des espèces de ceintures d'orfèvrerie, mais qui étaient portées à corps. C'est pas des ceintures de pierre qui sont forcément mises sur les vêtements. Hein, ce n'est pas une ceinture, ça sent le corps, on va dire. Et pour les ceintures de chasteté, c'est pareil, c'est-à-dire que il y aurait eu le même type de bijoux. Mais qu'effectivement, qui était pas porté sur le sexe dans le sens que vous pouvez vous, avec le jeu de mots qu'on y voit, mais qui était même vraiment sur le sexe. Et alors, il faut que vous sachiez qu'on en a des versions pour hommes aussi. Donc ça, c'est effectivement, c'est toute cette part de l'histoire intime qu'on connaît malheureusement pas. Alors, cette source, je l'ai pas vérifiée. Par contre, pour hommes, j'en ai une photo.
Rebondir sur le bijou qu'on n'a pas, il y en a un dont on a beaucoup parlé, qui est le bracelet de géosurveillance qui nous a été refusé. Il nous a été refusé par une lettre du ministère de l'Intérieur nous expliquant qu'en fait, ils considèrent que ce ne fait pas partie de la catégorie des bijoux parce qu'il ne répond pas à une décision souveraine de se parer quelque chose. Et la réponse est excellente parce qu'elle donne aussi un mythe sur l'intentionnalité et le libre arbitre dans le port, le choix de porter quelque chose, d'en faire quelque chose. Et ils nous ont interdit de l'avoir. En fait.
J'avais convaincu l'attachée de presse, mais qui n'a pas réussi, elle, à convaincre ses supérieurs.
Pour vous donner une confidence, donc à partir du moment où on estime que le bijou peut être en tissu, donc la cravate est un collier, et donc tout ce qu'on va coudre ici peut être une broche. Et comme on a une section politique, est-ce que les étoiles jaunes peuvent être mises dans l'exposition? Voilà, ça a été une vraie question entre nous. Ou rose. Et bon, on savait aussi que là, on allait avoir un retour. Voilà, c'est le problème aussi. Voilà un problème de censure, d'auto-censure. Et heureusement, Cartier nous a permis d'avoir une autre étoile, qui est une étoile aussi politique, qui parle de renaissance, de résistance, pardon, et du monde juif. Donc ça nous a, enfin, personnellement, compensé un manque. Mais c'est vrai que là, on allait vraiment questionner. Voilà, pour une fois, là, il fallait le rapport à la matière dans la définition. Il faut que vous sachiez que lorsqu'on est allé au Louvre, le conservateur en chef du département des objets d'art ne comprenait pas du tout certains choix. Et surtout, donc la question avait été franchement posée, mais une couronne, ce n'est pas un bijou. Voilà. Et ben oui. Donc c'est là où vous voyez. Voilà. Donc si vous voulez, la limite, il faut savoir si la limite, c'est parce que c'est défini. Bracelets, bagues, etc. Donc ça veut dire que vous avez déjà des espaces corporels qui sont définis. Oui, je suis désolée, j'en reviens toujours encore. Et ça veut dire que le bijou préhistorique, le bijou ethnique et le bijou en Europe, ben ça va pas être les mêmes. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir comment ils sectionnent. Et puis ça veut dire aussi que déjà dans ce département-là, ils ne sectionnent pas par rapport au matériel. Ça, c'était aussi intéressant.
Et par rapport à ce que tu disais de l'intention, le ministère vous a apporté une réponse sur le fait qu'il n'y avait pas d'intention souveraine. Oui, non, j'ai bien compris. Mais vous en pensez quoi? C'est-à-dire que pour vous, le bijou doit être intentionnel?
Non, mais non, justement.
Ah, d'accord,
il y a
ok.
Plein de cas comme...
D'accord, oui, d'accord. Non, non. C'était juste pour confirmer.
Toutes les femmes qui portent une alliance n'ont peut-être pas demandé
à se marier. Il me semblait que ce n'était pas tellement un livre, je crois, imposé par l'Église. Mais bon. Ça peut être c'est même un livre, je crois, censuré.
Oui, alors pour revenir, oui, il y a les rapports avec le pouvoir, et on en a parlé un petit peu aussi, et le bijou comme élément donc justement qui met en scène le pouvoir ou qui vient le contester, mais voilà, c'est des pistes, et le rapport au temps, qui peut être, le rapport au temps, oui, enfin ce que je disais, la montre, par rapport à la mort, etc., et à le côté éphémère, les matériaux,
Et puis, j'avais une autre idée, mais je l'ai perdue, mais ça va me revenir certainement. Et également, enfin, ce qui peut être aussi une autre piste, c'est le rapport au corps, effectivement, qui est extrêmement aussi intéressant. Mais là, c'est encore une autre piste, voilà. Mais voilà, déjà au moins des rapports de pouvoir, contre-pouvoir, peut-être. Peut-être.
Alors, et c'est un regret, comme ça vous allez tout savoir, je ne pense pas que le bijou ait un rapport réel au memento mori. C'est complètement faux et c'est toute la différence qui va nous différencier avec l'art. Alors je vais vous donner exceptionnellement le fond de ma pensée. Dans tous les livres, dès que vous voyez apparaître, donc fin Renaissance, début 17e, des représentations de têtes de mort, on est sur le memento mori, donc qui est quand même une pensée philosophique, j'allais dire sérieuse, pleine, et qui nous donne notre relativité sur Terre. Quand il est lié à la montre, il l'accentue. Alors là, on peut dire que dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais à la différence des tableaux qui peuvent être positionnés à côté d'un lieu de prière, le memento mori dans le bijou, c'est un carpe diem. C'est-à-dire qu'on lui met des diamants dans les yeux, on l'entoure, on se fait des sautoirs avec des os. C'est-à-dire qu'il a, même dès la Renaissance, il a la même logique que nous avons aujourd'hui quand on voit des têtes de mort partout. Il n'y a pas une vraie pensée. Et ça c'est aussi intéressant dans la réflexion de voir comment le bijou n'avait pas ce système de pensée et était justement dans ce futile, alors que ce système de pensée vraiment de memento mori existait dans la peinture. Alors que là, c'est en plein détournement. Enfin, il y a quand même des bijoux au XVIIe siècle. Malheureusement, on n'en a pas eu, mais il faut que vous imaginiez le sautoir avec donc tous les os croisés, et puis arrivé en pendentif, vous aviez le cercueil, et bien sûr, on ouvrait le cercueil, et qu'est-ce qu'on avait ? On avait un petit pantin de squelette. Donc, on est dans l'amusement, voilà. Et ça, ce rapport au futile et au temps qui passe, c'est pas du tout le rapport que va aller chercher un artiste d'aujourd'hui, parce qu'un artiste d'aujourd'hui, quand il parle du temps qui passe, il parle vraiment du temps qui passe. Et là, je crois que je vais passer mon micro. Ah, il ne veut pas. C'est très difficile de lui faire parler. On espérait qu'enfin, finalement, vous auriez une version personnelle. Bon.
Justement, par rapport au temps qui passe, c'est aussi la question, enfin, peut-être, alors, relié avec ce rapport au corps, c'est aussi le temps qui passe sur la personne et les bijoux aussi portés en fonction de l'âge. Et ça m'a beaucoup amusé, il dessine All the Sucks, effectivement. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est les normes, questionner les normes justement du bijou, et, enfin du port d'un bijou par rapport au vieillissement d'un corps, etc. Parce que, notamment bah, pour les femmes aussi, on disait souvent qu'à partir d'un certain âge, il fallait commencer à finalement à se déparer et à enlever des éléments. Et voilà, il y avait le côté un peu repli.
Mais on disait ça quand ?
Quand on était 17e, 18e
siècle. Ah,
voilà. Voilà, non, mais voilà. Oui, non. Mais c'est intéressant. Oui, les femmes vieillissent. Enfin, il y a aussi des codes de comportement. Comment doit-on se comporter peut-être à tel âge, tel bijou.
C'est un peu comme le deuil. Finalement.
C'est un peu comme le deuil. Voilà, effectivement. Voilà.
Mais il n'y a pas aussi des bijoux que on peut utiliser pour dévier l'intention, c'est-à-dire aussi. Attirer le regard sur autre chose qu'une partie du corps qui serait en train de vieillir, justement. Moi, je me demande s'il n'y a pas ça aussi, sur des déviations par le bijou. Oui. Mais il y a, en tout cas, sur la question du vieillissement et qui prennent un peu à revers. L'idée de la beauté et de cette éternité du bijou, etc. Il y a donc la pièce dont Benjamin ne voudra pas parler, qu'on a vu tout à l'heure et que tu as projeté. Donc c'est cette broche, cette double broche.
Cette plateforme n'est pas une plateforme, parler de mon travail, donc j'ai une résistance à faire ça. En deux mots, effectivement, c'est une pièce qui parle du vieillissement, cette photo est de ma mère.
Et je vais demander qu'elle accepte qu'on travaille ensemble sur cette idée d'un corps féminin qui aurait une date limite de consommation et de renvoyer à regarder ses seins. Et donc c'était un travail sur ça. Et la question que vous n'avez pas posée, mais qui est dans vos notes et qui est vachement intéressante, c'est pourquoi effectivement il y a tant d'exemples dans l'exposition de bijoutiers contemporains ou d'autres gens qui parlent du vieillissement du corps féminin, et d'exemples de vieillissement du corps masculin, il y en a très peu. Enfin, il n'y en a pas.
Croiser justement voilà, le vieillissement, le corps et aussi l'identité genrée des femmes. Oui. Voilà. Effectivement, il n'y a pas forcément d'exemple. Voilà.
Là aussi, il y a des bijoutiers contemporains qui ont travaillé là-dessus, oui, mais voilà. C'est pas en expérience.
Voilà, c'est ça, justement, qui joue avec les normes, les attributs. Oui. Oui.
Je voudrais juste revenir
sur, avec une toute petite question sur la question de Memento Mori et la question.
On continuera la discussion sur le corps.
Ah. On continuera la discussion sur le corps parce que, enfin, en dehors, parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Mais qu'est-ce que l'on peut, selon toi ou selon vous, je pense à un autre objet, puisque vous avez mis des écrins. Et que pour moi, l'écrin, c'est typiquement un ornement du bijou. En fait. C'est une manière de, là encore, d'autoriser, donc de rajouter quelque chose qui permet de faire circuler de l'autorité dans l'objet qui est orné. Est-ce que un reliquaire aurait pu rentrer dans
Non.
Je m'en souviens plus.
Il y a un vrai reliquaire et c'est qui est bien sûr dans les rituels magie qui est dans cette sublime vitrine. Vous l'indiquez, dès que vous rentrez, c'est celle de droite. Là. Alors il faut que vous sachiez que ça c'était aussi un moment d'émotion parce que on nous avait pas prévenu que. Qui avait vraiment un os de Saint-Jean-Baptiste dedans. Et donc on l'ouvre.
Un vrai.
Évidemment. Et alors là, ça pose la question. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans l'histoire du bijou, on n'est pas dans du bijou vivant. Et là, ça vient réactiver le fait qu'effectivement, ce bijou a été vivant parce qu'il était l'intercesseur et que cet os a été enfin, pour celui qui le portait actif hein. Et donc alors magie, pas magie, vous emploierez les mots que vous voulez, mais donc des reliques, oui, il y en avait puisqu'on est, on a une section qui est dans la magie, voilà.
Oui. C'est là qu'il y avait trop de choses,
mais c'était non mais notre, la chose c'est que du coup on n'avait pas prévu le support pour vous le présenter ouvert. Parce qu'à partir du moment où on ne prévient pas, et quand c'est très beau, bon, alors, pour ceux qui s'intéressent, vous verrez la tête, ils ont représenté la tête de Saint Jean-Baptiste, donc qui est émaillée, et puis donc ce reliquaire s'ouvre, on a, c'est pas du cristal de roche, mais c'est tout de suite, je suis en train de chercher le nom, mais enfin qu'importe, c'est une pierre incolore, derrière vous avez l'os. Mais on a eu comme ça, excusez-moi, des surprises, en ouvrant, en ayant les bijoux, qu'on a des messages. Vous avez le message et vous avez toute l'intimité qui. Et quand des bijoux ont été portés par une femme qui avait tellement peur de ne pas être enterrée à côté de sa fille, elle avait organisé tout, mais quand même par sécurité, elle le portait sur elle. Voilà. Et c'est comme. C'était comme une sécurité ou une plaque médicale où on dit attention, je suis allergique à tel médicament. Là, il y avait une alerte. Donc il y a eu comme ça des. Voilà, là il y a eu surtout où que je sois, où que je meure, je veux être avec ma fille. Voilà, ça, c'est, on rentre comme ça dans des moments un peu particuliers.
So I want to go back to the question about the Jewish star and this issue about whether the body or violence is present in the exhibition. And I have a challenging question to ask. I can't help but think about materials and in the exhibition, materials are discussed. It's brought out that this is gold, that this is diamonds, there's status. And I can't help but also then think about the global and colonial conditions that led to that gold and those diamonds being here in France and taken from other people. And I'm thinking about the way in which there's a book called Empire of Cotton, which examines the complexities of the cotton trade. It's linked to slavery and to conquest and expansion into the Americas. And I'm wondering if you might speak to some of the ways in which this fraught history this broad French history specifically is present in the exhibition.
So my voter is with Leonard that would answer that one. it's not addressed, it's not problematized, and it's an absent question in the exhibition, and there's no justification for it. It's a lack. We could have pretended that, you know, we have a thematic exhibition that doesn't allow us to do these, you know, to deal with this problem and do it justice, but we just need to address it. Going back to the question that you also listed but you haven't asked, Lisbeth mentioned that, you know, this exhibition could only have been done in France, and I think another way to agree with that is because France is so rich in all these things that were taken, and that were, you know, the gold that was taken and the jewelry that were taken, and so we are profiting from that situation of having these hoards of things that were, you know, taken from elsewhere or made with the metal from elsewhere. It is a problem in the exhibition, and so there's no excuse for it.
Well, it makes me think about when Teresita Fernandez walks through this great video where she's walking through the pre-Columbian collection at the Met, and she says, this is where I can actually see objects that didn't get melted down when they went to Europe. And there was something of that that was going through my mind in terms of where status comes from and where those materials come from. And I do want to say, I think the exhibition does a phenomenal job of bringing in global perspectives, global forms, and such. So this is more an observation of, if you're going to take things to the conceptual, introduce the material, let's go dig down into what the implications are for those materials, too. It was just a question.
Il faut que vous sachiez qu'il y a eu un scandale quand même dans l'exposition, justement lié aux matériaux. You have to know there has been a scandal, is a big word, with the materials in the exhibition. We have des diamants de synthèse, synthetic diamond in the vitrine of the value of of technique. Yeah. But in France, it's not well welcome, and we were giving a message as well. That was really hard, and for me, because I know them, you know, it has been really a big conversation. How can you do that? And it's really because we thought human now. We can now do diamond without going in earth, and we can really redo them. And so we wanted everybody to know they were synthetic diamond and they were looking exactly like the other one.
The other object that really indirectly addresses this question is the Cannes Golden Palm, you know, for the festival, that's now ethically gold, fair mined. So it's really an attempt to actually, but very indirect, but this is also addressing, of course, the scandal of the mines, the bloody mines.
But also, that's not the same story, though. That's not the same story. Fair mining and colonialism are not the same story.
No, but it's an attempt to actually.
But this was important for Anne. She told us. Right. But that was not in the proposal for because it was another thing about what we were saying.
Recently I was in Dijon at the consortium, and they reinstalled a piece that I've never seen before, and then I thought that would have been amazing to show in the exhibition. But it's a real installation. It's by Hans Hacker, this institutional critic artist, and it's a piece he did in 86. And it's called the Quartier Must, and it's a very critical piece on the quartier being. It's called
you can see on the it's a recreation of a sort of a space room within a room, and it's you read the Cartier logo, and then underneath you read the Total, like Total the gas logo, petrol logo, and then also Rembrandt, and then so everyone thinks that it's related to the painter, but actually Rembrandt, when you read the description of the piece, you realize that it's actually a reference to financial corporation from the Netherlands that was and probably still run by Nazi Afrikaners, and this piece, and so you enter this room and you have a lot of photos of South African miners who got killed after striking against the mining conditions. And so I saw this piece way too late to include it in the exhibition. But we have also to say that we really wanted to have high-end jewelry in the exhibition, and so that obviously would have been a piece extremely complicated to have if we wanted to also exhibit high-end jewelry. So there was, I'm not saying that it's a easy choice, or maybe if we do another exhibition, we'll do it differently. But we, yeah, for this one, it was the case.
You asked a question about, pardon, vous avez posé une question avec les bijoux et tout l'air.
Oui,
le bâtiment. Je ne sais pas, je vous êtes historienne, et en fait, je me suis posé la question de savoir s'il y avait des bijoux éphémères au XVIIIe siècle.
C'est une très bonne question. Alors, je vais répondre de façon un peu plus déterminée. C'est qu'au XVIIIe siècle, on commence à voir arriver de nouveaux matériaux aussi pour les bijoux, enfin en tous les cas des nouveaux matériaux, et qui annonce aussi un aspect un peu éphémère, c'est-à-dire qu'aux bijoux, aux métaux précieux, or, etc., on va avoir aussi des bijoux en rosette ou des matériaux un peu moins nobles. Qui annonce, comme on retrouve aussi des matériaux comme ça dans la vaisselle, par exemple, on passe de la vaisselle d'or, d'argent à des vaisselles en faïence, qui coûtent moins cher, et qui donc du coup sont plus éphémères parce que bah, quand ça se casse, en même temps, c'est pas très très grave parce que ça coûte moins cher. Donc il y a ce côté-là, et on retrouve aussi dans les bijoux, et qui aussi annonce un côté un peu, une diffusion un peu sociale, et plus, voilà, c'est ce qu'on appelle des populus, enfin, c'est un luxe plus populaire.
C'est des bijoux fantaisie.
C'est des bijoux fantaisie, voilà. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, un côté aussi. Alors, des bijoux éphémères, est-ce que ce sont des bijoux. Il y a les coiffures. Les coiffures, donc, qui sont des chefs-d'œuvre éphémères. Alors, qui sont ornées de bijoux. Alors, les bijoux peut-être peuvent demeurer, mais dans la construction, ça dure quelques heures, une journée. C'est un peu éphémère. Bien,
je pense à un exemple, alors, et là aussi, on est à la frontière du bijou, non, ce sont des rubans. Des rubans qui sont énormément utilisés au XVIIe et XVIIIe siècle et qui sont ritualisés dans leur usage de séduction. Là aussi, ce sont des rubans qui sont éphémères. Mais on est quand même à la frontière du bijou et du vêtement. Donc,
Ça coule, c'est
sûr. En tout cas, on est dans le rapport au corps, il n'y a pas de doute.
Ah,
j'ai
essayé de
voir.
Moi, tout d'abord, je suis une des artistes qui a une pièce dans l'exposition. Je voulais vous remercier énormément parce que je pense que cette exposition a pu lieu à plusieurs niveaux. moi, ça m'a permis d'attirer le respect de mon entourage, qui pensait que quand je faisais des bijoux, j'enfilais des perles ou je réparais des bijoux cassés. Et donc, de voir les bijoux dans un musée de ce niveau a permis de leur faire prendre conscience de l'importance de cette forme artistique. Et donc, d'être plus au sérieux. On aura tout un débat là-dessus. Mais... Et puis, j'ai eu une discussion aussi avec Ben l'autre jour, parce que entre la prévue et puis j'ai revu l'exposition fin août, chaque vitrine a eu un petit libellé qui permettait une lecture plus facile. Et moi, je dis bravo, super, ça facilite encore la lecture de l'exposition. Et Ben m'a dit oui, mais moi, j'en voulais pas. Donc je pense que voilà. Donc je pense que je pense qu'il y a un débat là-dessus, parce que il me dit oui, mais on met des choses dans des boîtes, on encapsule, et ça limite. Et moi je trouve que ça permet une lecture à tous les niveaux. On n'y connaît rien, on a une lecture facile, on y connaît quelque chose, on n'est pas obligé de lire ce petit libellé. On peut l'ignorer et puis laisser. Donc voilà, je veux savoir. Qui était pour, qui était contre.
Because
at the beginning there were.
Because I told them that I wasn't in favor.
Yeah, there was a debate. Il y avait un débat à propos de ces sous-titres, enfin ces titres de vitrine. Moi j'étais pas non plus complètement pour, mais finalement je me suis laissée convaincre en entendant un certain nombre de visiteurs vraiment s'interroger, et je me suis dit que s'ils n'étaient pas dans notre tête, c'est vrai que il y avait vraiment des associations qui étaient compliquées, mais je pense que souvent on a aussi quand même choisi des titres qui n'étaient pas non plus les plus évidents ou les plus. Enfin, je pense pas que ça réduise ou rarement aussi l'effort que de toute façon le visiteur continue de devoir faire. Enfin, et par exemple, il y a quand même certains titres qui restent extrêmement subjectifs, et là je pense à. Je pense à en particulier la vitrine qui présente un collier de Lisa Walker avec ses mégots grandeur XXL, et qu'on a intitulé Exorcisme. Et là, c'est vrai que là, il y a une sorte de titre un peu poétique qui n'enferme pas la pièce dans une lecture ou en tout cas qui n'est pas celle la plus évidente, quoi.
Alors, pour expliquer la raison pour laquelle moi j'étais contre, je pense que si on s'imagine une exposition d'art contemporain, par exemple, avec une installation conçue pour y marquer l'humour dans l'art conceptuel juste au-dessus pour qu'on comprenne mieux, je pense que tout le monde serait horrifié. Et je pense qu'il y a de toute façon, quand il y a un effort comme ça sémantique qui est fait, quel que soit le degré de subjectivité, il y a des manières d'enfermer des discours et de dire cette vitrine elle signifie ça. Et donc mon point de vue c'était de dire on a un visiteurat qui peut aussi essayer de comprendre les choses et qui peut aussi avoir des lectures qui sont les siennes. Mais on a eu un raz-de-marée de retours qui disaient non mais les gars, on comprend rien à votre truc. Et donc je me suis en laissé convaincre parce que je pense qu'il y avait un effet pédagogique qui était nécessaire. Et je regrette qu'on n'ait pas eu assez le temps, en fait, de trouver des mots qui soient plus compliqués, en fait, plus complexes. Et je pense qu'il y a des titrages de vitrines qui sont démonstratifs, qui sont affirmatifs. Et je pense que ça pose des vrais problèmes pour l'exposition. Parfois, ça réduit, si tu veux, la friction de ces objets, quoi, leur richesse. Et je trouve ça vraiment dommage.
Oui, juste moi quand j'ai vu le titre de la vitrine où j'étais, c'était le moule, le dur ou je sais plus quoi.
La vitrine.
Hein?
Non.
Et de, je sais pas, le moule.
C'est-à-dire que très franchement, quand on a pris la décision, c'était top chrono, il fallait faire
toutes les. Non, mais juste à l'idée.
Pour que ça passe tout de suite, parce qu'après c'était complet.
Donc moi, j'ai le plaisir de faire des ateliers d'écriture au sein de l'exposition. Et donc, ce que je fais avec le groupe, c'est que je leur demande de choisir un bijou dans l'exposition. Et c'est assez frappant parce qu'il n'y a eu aucun bijou contemporain de bijou choisi. Enfin, c'était du coup, les gens, ils allaient tout de suite vers des joailleries, enfin, des choses qu'ils connaissaient, qui les rassuraient. Et donc, voilà, donc par rapport à cette pédagogie qui est nécessaire, comment on s'y prend, enfin, je trouve que ça pose vraiment une question. Enfin, c'est assez flagrant. J'en ai trois ateliers et jamais de vie, quoi. C'est vraiment fasciné par la joaillerie, les pièces de grand lit, enfin, il y avait. Voilà, c'est assez.
Moi, je pense que très souvent, vous ne vous rendez pas compte, et je pense aux bijoutiers contemporains, quand je dis vous, que parfois vous avez un discours élitiste. Et si vous voulez qu'on vienne à vous, ben, il va falloir aussi laisser des petits cailloux. Voilà, c'est tout simplement ça. Et en plus, moi, je suis prof, donc j'aime bien que mes élèves comprennent. J'estime pas qu'on enferme, parce qu'il y a quand même un tel discours à l'intérieur des vitrines que ça laisse beaucoup de potentiel. Et puis, en plus, la scénographie a fait que si vous... Voilà, la scénographie, elle, vous la comprenez ou vous ne comprenez pas, mais là aussi, on n'a pas mis une explication. Et pourtant, quand on parle d'identité, les vitrines sont plates. Quand on parle de corps, tout d'un coup, les corps sont relevés. Quand on parle de valeurs, vous prenez des dos de vitrines parce que ce sont des coffres-forts qui sont tous tournés vers un diamant. Et quand on parle de magie, vous arrivez dans une forêt, une espèce de grotte platonicienne où vous allez vous perdre, parce que de toute façon on parle de rituel, on parle de magie, pourquoi il y a un collier qui parle de, là, au milieu de tout ça, qui parle de c'est le collier de Lisa Walker, avec des cigarettes, donc là je et puis à la fin on va même dans la magie de l'imaginaire, donc ça, vraiment, si je crois qu'il y a beaucoup de place qui est quand même laissée. Voilà, ça c'était... Mais vous imaginez bien que trois personnalités comme nous, ça a eu... On a eu... Et c'est toute la richesse de ce qu'on a fait aussi. Hein. Ça a été... On a eu des différents... Voilà. Moi aussi, beaucoup d'accord. Bien sûr.
Alors, après, j'aimerais vous demander
de
en France a ouvert sur le bijou contemporain, est-ce que vous sentez que ça donne aussi une autre ère pour toutes les maisons de la place Vendôme, toutes les joailliers qui font rayonner la France par leur créativité universellement? Comment vous ressentez ça, surtout dans un monde plus global dans lequel il y a des artistes, une nouvelle génération, cette exposition quand même à Paris, dans un lieu résolument moderne et contemporain. Alors comment vous sentez l'avenir, surtout par rapport au rayonnement de la France?
C'est peut-être la force quand Anne a fait ça, de faire une exposition dans ce lieu-là, lié à Paris, qui est toute l'opposition. Là, on est dans le paradoxe absolu et je crois, unique, et qu'on n'a jamais fait, parce qu'on est allé au Saint-Dessin, booster le Saint-Dessin. Donc, c'était deux Saint-Dessin qui se sont confrontés.
And the future now. That's my question. And the future now. Are there going to be more design exhibits, or now, as you haven't put in the Cartier piece yet, so, but Cartier and Van Cleef and all the jewelers were there, has that made possible an interaction of listening and going forward, of new talent being attracted?
To be sure, we don't know. We can hope. Yes. We don't know. Okay. We can hope.
Great.
I think it's important to, in your question, I think it's important to recognize one thing that's from the museum's perspective that ties in with what you were asking, I think, is that most of the objects in the exhibition are not in the collection of the museum. Most of the objects are on loan, and that there's something very fascinating and very unique that happened, and maybe you could speak to that, because I think it talks about what preparation happened to get to this moment that can has an implication for the future, as you're talking about.
And afterwards, that maybe students or people want to continue in that movement and are sprouting out of schools or... To what the museum had to do and what happened, some of the scientific things that happened. I mean, this took a while to put the stroke together.
There is actually one piece that's part of the collection, out of over 450. But what's interesting is it's exactly actually the same as with the Decorum exhibition. When I started to work on the textile exhibition, I even didn't know that there were some pieces in the collection. It was kind of a forgotten story. It was not really in the, you know, catalog that we do to advertise our collection. It was never like the highlights of... But I discovered it was sometimes really a great coincidence, because I didn't have to actually look for those pieces outside of the museum. I could actually dig in the storage and find them and exhibit them again. So that was a great part. And now we're kind of kept acquiring some textile pieces connected to the show, because we often... keep tracks also of every exhibition in the acquisition. And for Medusa, I didn't know, because we have a few decorative objects because of the building that was built in 37. And so we have Art Deco vases and Art Deco furniture. And I didn't know that we also had a selection of about 30 rings and necklaces that were on loan, like a long-term loan, at the fashion museum in front of ours. And so I called them the Galliera Museum. So I went there and told them that we were really interested in not only borrowing one piece, but also borrowing the whole set and exhibit them again in the permanent collection, so that there is a link also. And what they kind of knew, but without me telling them like right away, is that we also want, after the show closes, we want to keep them. And they agreed. They were really sad, but they never exhibit them either. So I was like, maybe they're going to be more visible. And then what was the other question? If we would keep going, keep doing?
Going, but also
when you do an exhibition, and part of my question is also to illuminate what it takes to put an exhibition like this together, and the responsibility of the museums and the curators to actually make this happen is phenomenal. And one of the things that I was struck by is, you know, in the juxtapositions of objects that come from different collections, from fashion houses alongside the Louvre, alongside other things.
But also contemporary, you know, jewelry, yeah, collectors.
And them collectors, well. But I'm thinking also just, you know, you were able to put together objects that would not ever appear together, right? I mean, that's something you mentioned when we went through the tour, Ben, when you toured me through the exhibition, that this is an opportunity to see things together that would never happen because it's mostly loans. And I guess... I'm concerned about the responsibility of the museum to, how do I put this? Oh, I'll just say it. I'm concerned about us putting the responsibility on the museum to make sure the next exhibitions happen. I think the museum behind the scenes did a phenomenal amount of work, and this is the former curator speaking, so I fully admit I'm biased. But it took a lot of work to make this happen. The responsibility going forward, I'm not sure, outside of collecting, I'm not sure what we want the museum to actually do, what your responsibility would be, you know? And so it's just to throw out there, you know, that there's a lot that happened behind the scenes that is different.
Il y a quand même un outil qui va rester, c'est le catalogue. Parce que ça n'a pas été créé comme un catalogue, mais aussi comme un livre.
Et c'est l'ambiguïté qu'on a fait, peut-être pour certains, c'est qu'on a demandé à des personnes extérieures d'écrire des textes. Et ça lui donne une dimension qui va au-delà de l'exposition, puisque ce n'est pas forcément notre avis. C'était pas forcément. Ça devient un outil de propagande, mais pour Ben et moi, le combat est continu.
Alors, refaisons.
But the catalogue is very different from the exhibition.
That's why.
That's the reason. So she said she was going to fight with us.
I would like to provide some kind of answer. I would like to provide some kind of answer to your question. Maybe the next victory would be to have a jury exhibition at the Fondation Cartier. Cartier.
Une question à Anne. Dans ton est-ce que tu as vu dans ton environnement d'artiste et de femme d'artiste?
Est-ce que tu as vu dans ton environnement d'artiste et de femme d'artiste des envies pour aller vers le bijou contemporain? Parce que ce qui est quand même étrange, et ça moi je le vois par rapport à Christine, c'est qu'on fait les ventes de bijoux exprès, parce qu'il y a du bijou contemporain en même temps que les ventes d'art moderne. Et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout la clientèle qui vient. Donc à chaque fois, moi je me prends des portes. Et donc j'aimerais bien savoir si au moins là, il y a un impact qui s'est fait.
Si des artistes voulaient.
Si des artistes, des femmes d'artistes, si le milieu de l'art contemporain.
J'ai pas là
déjà que ça peut commencer. Ou des femmes, des collectionneuses.
J'ai vu de l'intérêt, en tout cas intellectuel, sensible pour ces œuvres ou ces objets. Je peux pas te dire qu'il y a un marché qui s'ouvre en tant que tel.
So I want to push back against this notion of this exhibition as an act of promotion. It's not that. The field of jury is great. We love it. But to embed this exercise in an act of promotion is to miss the point. For me, you know, we try to produce something which is an event, which is short-lived, which is one point of view on jewelry, and let's look forward to the next one. But this is not part of a bigger fight. Because, you know, we continue to represent or express this field as if it was dying or as if it was on life support. It's not. There's great people doing great work, many exhibitions today in Paris. And so I think it's time to go, you know, move up a notch. And, you know, this is a mature field. We can look at the work that's being produced. We don't need to label it too much. And I think this is the next step in doing jewelry exhibitions.
But for example, just the jewelry gallery France versus the north of Europe versus the United States, which is much more conceptual, the Netherlands, just to give a name, and I do happen to know that country quite well, is much more proliferating. Why? How is it the weight of the historical French jewelry tradition and the savoir-faire traditions which weighed it down, or I'm just mistaken?
No. This is a small story. You know, every nation has a different relationship to its craft. France has its own, and it explains the position of contemporary jewelry in France. I don't think this is part of this round table to discuss that. But it is, you know, situated progress and development, that's it.
Le nombre de visiteurs est similaire à un expert. Je ne l'ai pas complètement à jour, mais c'était 46 000.
Et c'est similaire à l'exposition.
Non, c'est plus qu'une exposition d'art contemporain.
Oui.
Et c'est moins qu'une exposition d'art moderne. Oui. C'est entre les deux.
Okay. Et ça t'a excité. Okay.
C'est beaucoup plus qu'une exposition d'art médiéval. Voilà.
L'impact sur la complexité dans le bijou, je crois qu'il est, je crois que c'est surtout ça qu'on a voulu montrer. Je crois que l'AIU est totalement reçu, donc c'est pour nous, c'est
parce que pour nous c'est gagné. De voir comment ça se situe en termes d'audience. On peut toucher quand même un public qui n'est pas le entre nous, donc l'audience est quand même un signe.
Et je sais qu'il y a une étude de public qui est, enfin, il faut volontairement répondre à des questions, et donc ça, ce sera étude analysée une fois que l'exposition sera clôturée.
Speaking of which, I think we should close. c'était une journée géniale. Franchement, à tout point de vue, merci beaucoup à tout le monde venu. Merci aux intervenants d'avoir fait des interventions géniales. C'était super fait. On a enregistré, on n'a pas encore demandé la permission aux intervenants si on va pouvoir transformer ces enregistrements en podcast. On ne sait pas non plus la qualité des enregistrements. Si c'est le cas, on essaiera de faire une diffusion sur ces enregistrements pour que vous puissiez en reprofiter. Yes. Et ce soir, il y a une fête à Hangar. Voilà.